Nous arrivons au chapitre 20 qui nous parle de la résurrection. Alors je vais lire ce chapitre, et donc je le lis dans la traduction du Semeur. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, il vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu ? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni, ce qui veut dire maître. » « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta tout ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et leur dit, « Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous !» leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient encore verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !»« Parce que tu m'as vu, tu crois, » lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous y croyiez, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Je vais lire un autre verset qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 14. Paul va donc parle aux Corinthiens, il leur parle de la résurrection. Il dit, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. » Votre prédication est vaine et votre foi aussi. Si la résurrection de Christ n'a pas de réalité, alors ce qu'on fait ici n'a plus aucun sens et notre foi n'a plus d'objet. La résurrection de Christ, c'est ce qui va transformer un échec complet en une victoire qui va alors d'abord transformer la vie des disciples, et puis qui va conduire à la formation de l'Église, d'une communauté de milliards d'individus. Le Christ a été crucifié, il est mort d'une mort infamante qu'on réservait aux esclaves. Et si l'histoire s'était arrêtée là, eh bien, on ne serait pas là ce matin. Et ce texte nous parle du passage de cette défaite à la victoire. Et on voit ici que cette transition n'a pas été instantanée. Ça s'est pas fait d'un seul coup. Ça a pris du temps. On le voit là, donc le passage qui nous occupe, ça dure une dizaine de jours. Les passages qui vont suivre, on va voir que les disciples vont mettre du temps avant d'assimiler ce qui s'est passé, avant que ça se transforme et que ça porte du fruit. On peut même comparer ce passage à la graine qui a été plantée, à la graine qui semblait morte dans la terre et qui commence à éclore et qui monte doucement. Et on peut même penser que la fleur éclot à la Pentecôte. C'est à ce moment-là que cette victoire devient manifeste pour tous. Mais là, on est encore à un moment où cette victoire est en train de grandir dans le cœur des disciples. Et on va suivre un petit peu le déroulement de cette journée, puis de la semaine qui a suivi. On va voir comment Jésus va aller chercher ses disciples, comment il va les trouver au fond de ce qui me semble être une profonde dépression. Et quand je préparais, pendant que je préparais cette prédication, j'ai téléphoné à ma tante qui, depuis plusieurs années maintenant, traverse une dépression. Et je lui parlais au téléphone et elle pleurait. Et elle me disait qu'elle voyait pas d'issue, qu'elle avait aucune perspective, pas d'avenir. Et quand je lisais ce passage qui nous parle de Marie qui pleurait et Jésus qui l'interpelle, ce contexte m'a amené à lire ce passage peut-être d'une façon différente de ce que j'avais pu vivre auparavant. Et c'est souvent comme ça avec la parole de Dieu. Des textes qu'on a lus souvent, dont on a entendu parler souvent, et les circonstances de nos vies font qu'on le regarde d'une façon un peu différente. Et alors je vous propose, oui, de lire ce passage en mettant l'accent sur la façon dont Jésus va aller relever ses disciples. Le passage commence avec d'une façon un peu étrange. On est la nuit. Marie d'abord va au tombeau, puis ensuite Pierre et Jean. Et ce texte nous décrit une course. C'est étonnant de voir les détails qui sont mentionnés, hein. Se demander pourquoi ils sont là. Et je pense que dans tous les détails que la parole nous donne, tous ces détails nous montrent des choses, et ça vaut la peine de se poser la question de pourquoi est-ce que le texte nous parle de Jean qui court plus vite que Pierre. Quand ils arrivent, donc Jean hésite et il rentre pas dans le tombeau, et Pierre arrive derrière, il a couru plus lentement, mais lui, dès qu'il arrive, il rentre dans le tombeau et il voit que effectivement Jésus n'est plus là. Et ensuite, c'est Jean. C'est Jean qui rentre, et le texte nous dit que Jean vit, et il crut. Il ne nous est pas dit ce que Jean a cru, mais probablement il a... Alors, le texte nous dit qu'ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter. Alors Jean croit, et il croit probablement que oui, que Dieu est intervenu, qu'il a fait quelque chose de miraculeux, même s'il ne comprend pas encore complètement de quoi il s'agit. Mais dans ce déroulement, dans cette première découverte de la résurrection de Christ, on voit quand même les disciples dans une situation qui est on voit leur trouble. Ils démarrent ensemble, ils courent ensemble, mais ils n'arrivent pas à rester ensemble. Ils ont peur et ils sont pas capables, oui, de s'attendre. L'émotion les prend et ils s'attendent pas. Et Jean va courir plus vite. Quand ils arrivent devant le tombeau, c'est la même chose. Chacun d'eux a une réaction différente. Chacun réagit avec ce qui le pousse. Et ensuite, ils vont repartir et ils vont laisser Marie là, toute seule. Et c'est vrai que quand je lis cette première description, je me dis que je vois pas beaucoup d'unité dans cette démarche où chacun finalement fait son propre chemin. Sans attendre les autres, sans se préoccuper de ce que les autres vivent. Et je me dis, si je devais parier sur la survie de ce groupe-là, si je me contente de lire ce morceau-là, je me dis, peut-être leur groupe n'a pas beaucoup d'avenir. S'ils sont conduits par la peur et chacun fait son propre chemin, il y a peu de chances qu'ils arrivent à résister à ce qui va les séparer. Et on arrive dans le passage où Jésus va se montrer. Et on voit Marie qui est seule, alors qu'auparavant elle était probablement avec les autres femmes, et les autres textes nous parlent d'un groupe de femmes qui est allé là-bas. Marie est seule et elle pleure. Et elle regarde le tombeau. Et peut-être vous l'avez remarqué, mais à chaque fois qu'il est parlé de ce tombeau, il est dit, ils doivent se baisser. Se baisser pour regarder. Alors je ne sais pas comment était fait le tombeau, mais manifestement c'était pas hauteur d'homme. Il fallait regarder en bas. Et c'est vrai que on voit Marie qui regarde le tombeau et qui est pas capable de regarder ailleurs. Même quand Jésus va apparaître à côté d'elle, elle ne va pas le reconnaître, et le texte nous montre qu'elle ne le regarde pas bien longtemps, puisqu'elle recommence à regarder le tombeau. Elle regarde en bas. Elle regarde en bas. Et les anges, puis Jésus, vont lui poser la question deux fois. Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi pleures-tu ? Et c'est pas la première fois que Jésus, comme ça, pose des questions dont la réponse, on sait qu'il la connaît la réponse. C'est évident. Pourquoi ? Il lui demande, mais quelle est la cause de ton chagrin ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Ben évidemment, regarde, le tombeau est vide. Mon Seigneur a disparu. Et alors qu'elle regardait vers le bas, vers cette absence, Jésus va l'appeler par son nom. Et moi, je suis toujours touché quand Jésus appelle quelqu'un par son nom. Parce qu'il connaît, le nom des petits. Marie, la femme de mauvaise vie. Zachée, le collecteur d'impôts, qui va aussi appeler par son nom. Jésus connaît le nom de ces petits-là. Et il connaît mon nom aussi. Marie, et il l'appelle par son nom, et quand il l'appelle par son nom, elle lève les yeux et elle le reconnaît. Et il va lui dire, ne me retiens pas. C'est la première chose que probablement quand Marie l'a vu, elle a voulu le prendre dans ses bras, lui tenir la main. Et il lui dit, ne me retiens pas. Et dans la façon dont Marie se comporte, on voit bien sa détresse, bien sûr. Elle regarde vers ce qui a été et ce qui n'est plus. Et elle peut pas donc se détacher de ça. Quand Jésus apparaît, comme n'importe qui, elle pense pouvoir retrouver ce qu'elle a perdu, cette proximité avec son Seigneur. Et Jésus lui dit non. Cette proximité, cette relation que tu as eue avec moi, cette relation n'existe plus. Elle est passée. Mais il y a quelque chose de nouveau qui maintenant est devant toi. Et oui, en pensant à ce que peut être la dépression, alors évidemment, je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni rien de tout ça. Mais pour moi, là, je vois vraiment un processus de transformation que Jésus propose à Marie, et on verra que pour les disciples, le chemin est un peu le même. Ce que tu as perdu, tu dois le laisser, et tu dois te tourner vers quelque chose de nouveau. Et Jésus va lui donner une mission à remplir. Il va lui donner un message à transmettre, et ce message, c'est « Je vais vers mon Dieu, vers mon Père, qui est votre Père, qui est ton Père, qui est ton Dieu. » On parle d'adoption, souvent, quand on parle de notre relation à Dieu, le Père. Et dans ce verset, je vois vraiment quelque part l'acte d'adoption. Jésus dit, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Il nous passe il nous relie à ce Père que nous pouvons découvrir comme notre Père. Et il lui donne à Marie cette mission d'aller témoigner, d'aller raconter aux autres disciples. Il lui donne une nouvelle identité. Elle est enfant de Dieu. Il lui donne une direction, une mission à accomplir. On arrive après au passage où on voit les disciples, qui eux aussi sont dans un état pas très brillant. Ils sont enfermés dans une pièce. Eux aussi effrayés, le texte nous dit qu'ils ont peur. Ils ont peur des chefs des Juifs. Ils sont ensemble, enfermés. Alors je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils doivent se regarder les uns les autres, être assis peut-être, à se demander qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire maintenant. Ils ont entendu le témoignage de Marie. D'autres textes nous disent que ce témoignage n'a pas été très bien reçu. Et Jésus apparaît au milieu d'eux, malgré les portes fermées. Et là aussi, il va dire deux fois une phrase. Deux fois, il va leur dire « La paix soit avec vous. » Salam alaykoum, la même salutation. Et c'est une injonction. « La paix soit avec vous. » Mais moi, je l'entends aussi bien comme une question. Comme il a demandé à Marie pourquoi est-ce qu'elle pleurait, quand il leur dit « La paix soit avec vous », on peut entendre « Mais où est votre paix ?» Parce que manifestement, vous n'êtes pas dans la paix. Vous êtes dans la peur, enfermé. Où est votre paix ? Et là aussi, on peut se demander, mais c'est vrai, qu'est-ce que ce serait que la paix pour eux, à ce moment-là ? Le texte nous dit que les disciples, en voyant Jésus, sont dans une grande joie. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de trouver cette description un peu plate, Et je trouve qu'effectivement, on voit que la réaction des disciples n'est pas aussi, on dirait, explosive que on aurait pu, si je sais pas, si attendre. Et on voit d'ailleurs que la semaine d'après, ils sont toujours enfermés dans la même pièce. Dans les textes qui suivent, on va voir que Pierre et Jean vont retourner à leur entreprise de pêche. On voit que la venue de Jésus ne transforme pas immédiatement la situation. On peut penser au moment où Jésus les a appelés. Donc il a appelé là ces pêcheurs qui étaient au bord de l'eau avec leur barque, qu'il est passé à côté d'eux et qu'il leur a dit « Suis-moi ». Et les disciples ont tout laissé là, et ils ont suivi. Comme ça. Et bien là, ça se passe pas de la même façon. C'est pas comme ça que tout change. Et Jésus leur donne, là aussi, une mission qui fait là aussi le lien entre ce qui était, ce qui a été et ce qui doit venir. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ça, c'est une corde qui leur permet de remonter la pente. La paix, c'est d'accepter ce qui a été et ce qui n'est plus, et de voir ce qui est devant. Et Jésus leur dit, voilà, le Père m'a envoyé, et de la même façon, ce que vous avez vu, ce que vous m'avez vu accomplir, eh bien maintenant c'est votre tour de l'accomplir. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce qui vous paraissait terminé, fermé, alors que vous ne voyez plus d'espoir et d'avenir, eh bien moi je vous montre un avenir, je vous montre une direction qui pourra vous porter. On peut retrouver d'ailleurs dans les deux phrases que Jésus donne d'abord à Marie et ensuite aux disciples, cette même idée de la relation verticale et horizontale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve la même dimension ici. Je vais vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu, et puis je vous envoie. Je vous envoie vers le monde. Cette même unité, ce même équilibre dans ce qui fait la vie d'un homme selon le plan de Dieu. Et ensuite, il y a deux passages qui sont difficiles dans ce texte-là. Dans ce que Jésus leur dit ensuite, alors attendez que je retrouve mon passage, mais il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, cela leur sera retenu. Il y a un autre passage dans Matthieu où il est dit de un peu la même façon, ce que vous lirez au ciel sera lié, ce que vous délirez sera délié. Et c'est un peu difficile à comprendre cette façon que, comme si Jésus donnait aux disciples le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Et on peut déjà voir que c'est pas comme ça que les disciples l'ont compris, parce que chaque fois qu'ils ont annoncé le pardon, ils ont annoncé le pardon en Christ. On peut trouver ça dans les Actes. Le pardon vous est apporté en Christ, en son nom. Ils n'ont jamais récupéré ça pour eux. Et c'est vrai que l'Église, dans l'histoire, a parfois pu utiliser ou comprendre ce passage-là comme un pouvoir à exercer sur les hommes. Mais la façon dont les apôtres l'ont utilisé, l'ont manifesté, je pense que Jésus, là, leur donne, il vient de leur donner une mission, quelque chose à accomplir, et il leur donne une responsabilité, et une grande responsabilité. Et l'Église va en effet devoir porter la responsabilité d'interpréter d'interpréter les textes, d'interpréter aussi les situations. Et les premiers siècles de l'Église vont être un combat incessant contre les fausses doctrines. Dès le début, les fausses doctrines vont se propager, niant la divinité de Christ, niant son humanité, imposant la loi pour être sauvé, plein de choses contre lesquelles les apôtres, les disciples, l'Église va devoir lutter, va devoir fermer certaines portes, certaines interprétations, rejeter des doctrines. Et je pense que, je le comprends comme ça, Jésus leur donne une direction, un chemin, une mission, et il leur donne aussi une responsabilité, il leur donne aussi quelque chose à porter. Il leur fait confiance. Quand il s'agit de restaurer, quand il s'agit de donner de la force pour un chemin qui va être difficile, Jésus est en train de les équiper pour accomplir tout cela. Il est en train de leur annoncer aussi la Pentecôte, quand il leur dit je vous donne mon esprit. Il leur annonce que sur ce chemin difficile qui les attend, ils ne seront pas seuls. Et l'Esprit de Dieu sera là pour les transformer, les conduire. Et ce texte nous parle d'une dernière personne, qui est Thomas. Thomas qui doute. Thomas qui est un peu un cartésien avant l'heure, hein. Qui veut toucher, qui veut voir. Et Jésus va le reprendre. Et pourtant, c'est vrai que ce Thomas, je trouve qu'on se sent proche de lui. Parce que, alors peut-être davantage dans notre société, mais je pense que ça a été vrai à plus ou moins toutes les époques. Les promesses qu'on nous fait sont souvent très éloignées de la réalité de ce qu'on obtient. Les choses qu'on a pu acheter pour Noël, les cadeaux, ceci et cela, on a vu des pubs sur Internet, des choses merveilleuses qui allaient faire. Puis quand on reçoit finalement l'objet, on s'aperçoit que le truc qui était soi-disant fantastique et merveilleux se retrouve à être cassé deux jours après. On est élevé dans le fait de douter des promesses qu'on nous fait. On a toujours envie de pouvoir vérifier que ce qu'on nous annonce est bien la réalité. Et ça paraît être... quand je racontais ce passage-là à mes enfants, Élie me disait, oui, c'est vrai, il faut pas être naïf. Ah ouais, c'est vrai. Et plein de gens nous racontent que ce qu'ils ont à nous vendre, à nous dire, va transformer notre vie, alors qu'en fait, tout ça, c'est du vent. Donc l'attitude de Thomas paraît pas si insensée que ça. Et pourtant, Jésus va lui dire... parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, Jésus est en train de mettre en avant quelque chose qui va être fondamental dans toute l'histoire de l'Église. Il est en train de mettre en avant le témoignage. Le témoignage des disciples, des apôtres, le témoignage des croyants. Ce passage se termine presque comme une conclusion du livre. Tout ce qui se trouve écrit a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Le témoignage, c'est ce qui va fonder la foi de ceux qui vont suivre, tous ceux qui vont entendre parler de Jésus, qui vont entendre le témoignage des vies changées, le témoignage de ce que Jésus a accompli. C'est ça qui va fonder la construction de l'Église, et Jésus est en train de dire « Heureux ceux qui ont entendu ces témoignages et qui ont cru sans avoir, comme toi Thomas, sans avoir pu voir et toucher. » Donc ce passage, ce récit de la résurrection de Christ, d'abord, d'un point de vue, on va dire, théologique, c'est ce qui fonde le message que nous avons à transmettre. Nous témoignons d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui a vaincu la mort, d'un Dieu qui nous annonce la vie éternelle, qui est le premier-né d'entre les morts. C'est parce que nous croyons profondément que Christ est ressuscité, c'est parce que nous croyons cela qu'on est là ce matin, c'est parce que nous croyons cela que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons que il est le Christ, qu'il est le Dieu vivant, et parce que nous croyons cela, eh bien nous avons la vie éternelle avec lui. Et ce passage nous montre comment Jésus est allé chercher ses disciples au fond du trou, sans plus d'espérance, et comment il les a relevés, comment il les a aidés à accepter que ce qu'ils avaient connu avec lui, eh bien, cette vie-là avec lui était terminée, qu'ils devaient effectivement l'accepter et se tourner vers quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on a, dans nos vies, eu à faire ce chemin-là aussi, d'accepter que ceux que nous aimions parfois, eh bien, sont partis, mais que c'est pas la vie continue. C'est que la vie est devant nous. C'est que le chemin avec le Christ est toujours là et nous conduit vers la vie éternelle, et nous conduit pas simplement sans avoir rien à faire en regardant passer les jours, mais le Christ nous donne une mission, il nous donne quelque chose à partager, quelque chose à donner, une richesse qu'il nous donne à partager avec les autres. Un message de vie. Il nous donne une responsabilité. La responsabilité de comprendre ce qu'il attend de nous, de comprendre sa parole, de l'interpréter, de comprendre comment dans notre situation, comment dans la situation des personnes qui sont autour de nous, comment ce qu'il a à nous dire a du sens. Il nous appelle aussi à rejeter certaines doctrines, certaines façons de le présenter, de l'utiliser. Alors, c'est vrai que moi, ce texte m'a fait du bien. Alors, j'espère que quand je reparlerai avec ma tante, qui est pas chrétienne, j'arriverai à lui transmettre cette espérance que non, l'avenir n'est pas bouché, mais que la vie nous est donnée. Que le Seigneur vous bénisse.